Le Gender Summit, ou le sommet sur les genres, existe depuis 2011. Ce sommet se penche sur l'inégalité des genres dans le domaine de la recherche, de l'innovation et du développement, en concordance avec le 150e anniversaire du Canada et le 375e anniversaire de Montréal. C'est 700 personnes qui tentent de faire progresser l'égalité des genres dans ces domaines qui se sont rassemblées pour la première fois à Montréal. C'était du 6 au 8 novembre dernier, co-organisé par le Conseil des recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, représenté par son directeur des programmes Serge Villemur, et par le Fonds de recherche du Québec. On a avec nous la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, Mme Maryse Lassonde, pour nous en parler. Bonjour, Mme Lassonde.
Bonjour, vous allez bien?
Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Très, très heureuse de vous avoir avec nous.
Ça me fait plaisir d'être là.
Vous avez votre baccalauréat en psychologie obtenu à l'Université de Montréal. Vous avez également un doctorat en psychologie obtenu à l'Université de Stanford en Californie. Vous êtes psychologue et vous avez été nommée directrice du Fonds de recherche du Québec en 2011, en même temps que le sommet. Quel beau hasard! Vous avez vu les deux côtés de la médaille, donc... Je trouve que c'est déjà une très, très bonne nouvelle d'avoir une femme à un poste aussi haut, hein, un poste de directrice pour une organisation aussi importante. C'est quoi la situation actuelle de l'inégalité des genres dans le domaine scientifique aujourd'hui?
Ben, écoutez, c'est que dans le domaine de tout ce qui est sciences naturelles, génie, mathématiques, tout ce qui est informatique, il y a une très, très, très grande inégalité. Les femmes ne sont pas présentes. Dans le fonds, par exemple, dans l'agence subventionnaire que moi je dirige, il y a seulement 20% de femmes qui font des demandes de subvention. Alors, c'est vraiment parce qu'elles sont pas présentes et c'est malheureux parce que l'économie future, c'est vraiment une économie qui va être basée sur l'appropriation des sciences, des mathématiques et surtout de l'informatique.
Mais c'est l'avenir. Et comme vous l'avez dit, ça englobe tous les autres domaines. Et là, vous me dites qu'il y a une femme sur cinq qui est présente.
Tout à fait.
En termes de présence, mais quand on parle d'obtenir les subventions à ce moment-là, est-ce que vous voyez une différence entre les hommes et les femmes une fois qu'ils sont dans leur position de chercheur?
Pas du tout. Le taux de succès est le même. C'est 50%. La même chose, les hommes et les femmes réussissent tout aussi bien, mais on ne reçoit pas de demandes de femmes ou très peu. Mais celles qu'on reçoit sont excellentes, tout au moins aussi bonnes que celles des hommes.
Donc, du moins, leur crédibilité n'est pas remise en cause une fois qu'elles y sont, mais s'y rendre est plus compliqué. Cette année, le sommet avait comme thème « Adopter le pluralisme et prospérer grâce à la diversité, façonner les sciences et l'innovation ». Qu'est-ce qu'on entend par pluralisme et diversité? Parce que j'ai l'impression que ça va bien au-delà des genres.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a d'autres groupes aussi qui ne progressent pas du tout en sciences. On compense simplement aux peuples autochtones, donc eux aussi ne sont pas présents en sciences.
C'est une réalité.
Donc, on avait fait. Oui. Oui, c'est une réalité. Et eux aussi doivent avancer à travers les sciences et faire leur place dans la société à travers ça. Mm-hmm. Non seulement eux, mais on avait aussi une session plénière sur toute la communauté LGBTQ2, parce que eux également, dans un monde, vous savez, comme le monde des sciences pures, des mathématiques, du génie, très souvent, on a le portrait d'un homme blanc ou asiatique, très, très hétérosexuel, en fait, et puis donc pas d'autres modèles. Hein.
Un gros stéréotype, là.
C'est un gros stéréotype, mais c'est aussi parce que c'est le modèle existant. Et donc, pour la communauté LGBTQ, c'est la même difficulté que pour les femmes, c'est-à-dire faire leur place dans une communauté qui est majoritairement composée d'hommes qui ont donc une attitude assez spécifique.
Effectivement. Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'identité de genre est également un problème et peut miner la vocation ou l'expansion de la compétence d'un individu, ce qui est quand même inquiétant.
Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que, on le sait maintenant, il y a des études qui l'ont montré, très souvent, les gens qui viennent de ces communautés-là ne voudront pas du tout parler dans leur milieu de travail de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, parce qu'ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur aussi que ça nuise à leur progression, à leur promotion, et donc ça crée chez eux, très souvent, vous savez, dans le milieu de travail, on peut se sentir anxieux, et ça peut provoquer l'abandon même d'une carrière.
Oui, parce que c'est pas comme si on passait pas une très, très grande partie de notre temps au travail, ça doit être un moment ou un lieu où on peut s'épanouir.
tout à fait se sentir à l'aise dans ses choix personnels tout autant que dans les choix professionnels. Et ce n'est pas le cas pour le moment.
Je vous entends complètement. Je veux aborder absolument la charte Athénas One, qui est un autre but du sommet cette année. Cette charte a été élaborée en Grande-Bretagne, déjà adoptée en Australie. En pourparlers chez nos voisins américains, c'est quoi cette charte-là et qu'est-ce que le Canada veut faire avec cette charte-là?
Bon, voilà, c'est que justement, au Royaume-Uni, les agences subventionnaires ont décidé de pousser pour l'égalité, pour l'inclusion au niveau des établissements universitaires qui finançaient. Alors, ils ont établi une série de bonnes pratiques et puis c'est devenu maintenant, si on veut, ça fait partie d'une charte, toutes ces bonnes pratiques. Et les institutions universitaires, pour recevoir du financement, doivent démontrer qu'elles ont des politiques valables d'inclusion de la diversité. Et puis, il y a maintenant des façons d'adhérer à ces politiques en rentrant dans en se faisant... si on veut
reconnaître,
par cette charte-là. Donc, il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez rentrer au niveau bronze, vous pouvez augmenter au niveau argent, au niveau or. Mais donc, c'est quand même assez difficile. Et puis, il y a un examen qui est refait à tous les 3 ans pour être sûr que la certification est toujours valable. Et ça a vraiment donné lieu à des avancées incroyables parce que maintenant, il y a de l'équité, non seulement au niveau de l'embauche des professeurs, mais également au niveau de l'embauche du personnel. Ils ont adapté aussi les milieux pour que ça soit, pour que la conciliation famille-travail soit beaucoup plus agréable. Donc, des garderies dans les milieux, toutes sortes de choses comme ça qui ont permis finalement d'avoir vraiment une meilleure atmosphère dans les milieux de recherche.
Mais absolument. Puis ce qu'on voit aussi, puis c'est merveilleux parce qu'on voit que ça fonctionne, que c'est efficace, que les institutions universitaires, les instituts universitaires veulent cette certification-là. Elle est bien vue et on la veut.
C'est très bien vu. Absolument, c'est très bien vu. Et non seulement c'est bien vu par les universités, mais maintenant, les départements des universités veulent avoir leur propre charte Athénas One, veulent aussi avoir leur reconnaissance. Ils ont réalisé finalement que les conditions de travail étaient bien meilleures, que les conditions de vie étaient meilleures aussi. Et donc, c'est vraiment un grand succès. Puis, c'est en train d'être employé, comme vous l'avez bien dit. Maintenant, ça s'est répandu en Irlande, en Australie. Et les États-Unis et le Canada regardent également très attentivement pour adhérer à cette charte-là.
Et justement, c'est ce que je veux emmener et on va terminer là-dessus. On va parler de délai. Madame Lassonde, j'aimerais savoir, le Canada se donne combien de temps pour appliquer ces nouvelles stratégies-là d'inclusion et qu'est-ce qu'on s'attend du sommet sur les genres dans les prochaines années? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on voit avancer?
Ben, pour moi, ce serait superbe si on pouvait avancer très vite dans l'adhésion à ce programme-là, Athénas One. Université Canada, qui est un grand regroupement de toutes les universités du Canada, veut aussi y adhérer, mais c'est évident que pour changer et faire accepter ça au niveau local, au niveau provincial, parce que l'éducation, c'est quand même de juridiction provinciale, ça va prendre quand même un certain temps. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce temps-là devienne très, très court. Et puis, c'est sûr qu'au Québec, on a une volonté par la vice-première ministre et la ministre de la Science, Mme Dominique Andelade, elle pousse très fort pour que l'on puisse y adhérer le plus rapidement possible.
Parce qu'elle comprend bien l'enjeu ici. Et dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on veut pour les femmes dans ces milieux?
Bon, pour les femmes, mais pour toutes les autres minorités qui ont des difficultés, oui. je souhaite vraiment que chacune puisse faire sa place dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'administration aussi, dans le domaine des finances, parce qu'il y a des domaines aussi où il n'y a pas assez de représentation de la diversité. Donc, c'est ce qu'on souhaite le plus possible. On va y travailler très fort.
Madame Lassonde, merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.